Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'épilepsie concerne 50 millions de personnes dans le monde, d'après l'OMS. On peut être atteint d'épilepsie à tout âge et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous avons choisi de parler de sa prise en charge chez l'enfant. Les enfants davantage touchés que les adultes par cette maladie neurologique qui peut se manifester de différentes manières en fonction des zones du cerveau affectées, en fonction des symptômes. Et chez l'enfant, va se poser la question du diagnostic, éviter le risque d'erreur, définir les circonstances et la nature des crises, prescrire les examens justes pour proposer un traitement comme des conseils adaptés pour apprendre à vivre avec. Le suivi dépasse le duo médecin-patient puisque la prise en charge va également impliquer la famille, mais aussi les amis, le milieu scolaire quand l'enfant devient élève. Vivre avec l'épilepsie, avec tout ce que cela implique au moment de l'adolescence, l'autonomie, sécuriser le jeune sans l'enfermer dans sa maladie, sans l'isoler. Chez l'enfant comme chez l'adulte, parler de l'épilepsie, c'est également sortir des clichés qui réduisent encore souvent cette affection à des crises spectaculaires. Mieux comprendre cette maladie aussi pour en finir avec les fausses croyances et la stigmatisation qui peuvent mettre en danger les patients. Comment peut se manifester l'épilepsie chez l'enfant? Quelles sont ses conséquences sur son développement? Et dans les studios de RFI avec nous, professeur Stéphane Auvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à PHP à Paris. Et tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Togo le professeur Mofu Bello, neurologue à Lomé, chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère togolais de la Santé. Et pour nous joindre, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Stéphane Auvin, l'épilepsie, c'est la maladie neurologique la plus fréquente chez l'enfant, première maladie neurologique pour cette tranche d'âge, on va dire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fréquence plus importante au cours des premières années de la vie ?
Il y a plusieurs explications en fait, au fait que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients par tranche d'âge, est plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. En particulier, par exemple, quand il y a une malformation d'une ou d'une grande partie du cerveau, forcément, ça se découvre malheureusement assez précocement. Et donc, on le sait dans les premières années, même chose, certaines maladies génétiques, qu'elles soient chromosomiques ou vraiment géniques, ont plutôt tendance à débuter précocement dans la vie, plutôt tardivement. Ça explique une bonne partie de cette incidence. Il y a aussi les risques liés à des séquelles cérébrales, et en particulier les séquelles liées à un accident d'accouchement, les tableaux d'hypoxie ischémie encéphalopathie, qui forcément, ça survient juste après la naissance et les conséquences
vous
arrivent
avez,
après.
Vous avez utilisé des termes compliqués.
J'ai terminé en anglais, oui. L'encéphalopathie anoxo-ischémique, ça veut dire qu'en fait, à un moment, et au cours de l'accouchement, il y a eu un manque d'oxygène au cerveau. Et donc l'anoxie, c'est le manque d'oxygène. Ça fait des séquelles au cerveau. C'est une cause assez fréquente. C'est vrai qu'en fonction des zones géographiques et des soins périnatales, l'incidence a beaucoup baissé dans les pays occidentaux, mais ça reste quand même une cause extrêmement fréquente de séquelles cérébrales avec épilepsie.
Ça veut dire quand on reste très longtemps pendant ce qu'on appelle le travail, avant l'expulsion du bébé, ça dure, on va dire, l'accouchement dure très longtemps.
C'est pas forcément une durée, c'est plutôt une complication de l'accouchement où il y a un moment avec un manque d'oxygène.
Est-ce qu'on a des chiffres pour prendre la mesure de cette incidence chez l'enfant dans un pays comme la France?
Oui, on a des chiffres. On sait qu'en grosso modo, on a 1% de la population générale qui a une épilepsie. Ça, c'est le chiffre, c'est un tout petit peu moins que ça. Et on sait que l'incidence chez l'enfant est beaucoup plus importante. Il y a des travaux qui ont été faits sur les banques de données de sécurité sociale où c'est un peu indirect, en fait, pour vraiment nous donner ce chiffre. Mais on sait que c'est à peu près 60 000 enfants en France avec épilepsie.
Alors vous, les spécialistes, les neurologues, vous préférez parler d'épilepsie au pluriel. Pourquoi ?
On parle clairement d'épilepsie au pluriel. L'épilepsie, c'est une maladie et la caractéristique des épilepsies, c'est que le cerveau va faire des répétitions de crises spontanément, sans cause donnée. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, j'ai un diabète et que j'utilise de l'insuline pour baisser mon sucre et un jour, je ne mange pas et que je me fais trop d'insuline, je vais avoir une hypoglycémie, un manque de sucre dans mon sang, et je peux très bien faire comme manifestation neurologique, mon cerveau va pas aimer ne pas avoir assez de sucre, et je peux faire une crise d'épilepsie. Mmh. Donc le symptôme en tant que tel, c'est pas toute crise d'épilepsie veut pas dire épilepsie, ça c'est un de mes premiers messages. Par contre, si j'ai aucune circonstance et que mon cerveau fait régulièrement des crises, je vais parler d'épilepsie. Mais il existe plein de formes différentes, il y a des formes où... on sait quasiment dès le diagnostic qu'il va y avoir une guérison à 100%, sauf si on s'est trompé de diagnostic. Et on sait aussi où il y a des formes où, dès le diagnostic, il y aura une résistance au traitement, quoi qu'on fasse dans l'état de nos connaissances aujourd'hui en 2025.
Alors c'est simpliste, mais le fait simplement de dire « toute convulsion n'est pas épilepsie ».
Toute crise épileptique n'est pas, ou toute convulsion, la convulsion sous-entend qu'il y a des mouvements moteurs en fait dans la crise épileptique, toute convulsion n'est pas une épilepsie. Et par exemple, la cause de convulsion la plus fréquente ou de crise la plus fréquente chez l'enfant sont les crises fébriles, c'est des crises qui surviennent à la fièvre, 2 à 5% des enfants, et ces patients majoritairement n'auront pas d'épilepsie.
Donc il faut le dire en plus par rapport à notre bassin d'auditoire, on va dire fièvre, paludisme, ça ne veut pas dire que l'enfant sera épileptique.
Non.
Faut faire attention à ça.
Vraiment très important. C'est vraiment une notion importante pour ne pas se retrouver sous un traitement chronique qui peut durer très longtemps, voire à vie, de façon inappropriée.
Alors, cette question du diagnostic, on sait bien que chez tout le monde, c'est essentiel. Mais est-ce que pour l'enfant, pour la compréhension, pour l'accompagnement, on va dire que c'est encore plus primordial parce que ça va aussi impliquer la famille?
Je pense que c'est important parce qu'il faut... bien mettre le contexte de est-ce qu'on va avoir un traitement au long cours. Et même chose, j'ai parlé du traitement ou des conséquences d'un diagnostic. Il n'y a pas simplement est-ce qu'on va répondre ou pas répondre au traitement. Est-ce qu'il va y avoir un impact cognitif? Est-ce qu'il va y avoir un impact comportemental? Et la famille a besoin très précocement de savoir ses risques parce qu'il faut mettre... En fait, tout ce qu'on peut faire en prévention, c'est toujours mieux que d'essayer de courir après une problématique qui s'est mise en place. Donc quand on sait dès le diagnostic, on peut tout de suite prendre des mesures. Je vais prendre un exemple très court. Une des formes d'épilepsie de l'enfant assez fréquente, c'est l'épilepsie absence de l'enfant. C'est 10% des épilepsies de l'enfant, ça débute aux alentours de 6 ans. Le seul type de crise sont des absences, c'est des ruptures de contact, un peu comme si on appuyait stop sur la lecture. Il y a un arrêt sur image, une huitaine de secondes, et ça, après l'enfant reprend son activité normalement. Il fait ça 20, 30, 40, 100 fois par jour. C'est une épilepsie qui répond majoritairement assez bien au traitement. Mais on sait qu'un tiers de ces patients ont un trouble attentionnel associé. Et ce trouble attentionnel, c'est un trouble attentionnel pur, contrairement aux formes de trouble attentionnel avec plus ou moins hyperactivité. Il n'y a pas du tout d'hyperactivité chez les enfants avec épilepsie. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a traité l'épilepsie, éventuellement il n'y a plus d'absence, ils gardent leur trouble attentionnel. Si on ne fait pas de dépistage, on va s'en apercevoir après 2-3 ans si ce trouble attentionnel est important et on va le constater à un moment où ils seront dans un échec scolaire ou dans des difficultés. Donc grâce aux connaissances qu'on a acquises, il faut être dans l'attitude de prévention. Donc tous ces patients qui ont par exemple une épilepsie absence de l'enfant, il faut systématiquement dépister ce trouble attentionnel pour savoir ce qu'on peut faire comme mesure appropriée.
Alors précisément, quand on exerce en pédiatrie, on soigne l'enfant, mais on échange avec la famille, les parents, qui vont aussi gérer à leur façon la maladie, être essentiels dans cet accompagnement. Professeur Stéphane Auvin, au-delà des médicaments, on va parler de cette question essentielle de l'éducation thérapeutique.
RFI à Paris, 89 FM.
Gestion du traitement, sommeil, observance, tous ces sujets sont abordés lors des consultations de suivi par les patients atteints d'épilepsie et par les parents. Louise Kaledek a donc assisté à l'une de ces consultations au sein de votre service, professeur Auvin, à l'hôpital Robert Debré. C'était il y a quelques semaines. Émilie, elle a 16 ans, elle est atteinte d'épilepsie généralisée. Elle était reçue par Marion Danse, infirmière en pratique avancée, consultation en présence de la maman.
Je voulais sortir, non, je vais l'examiner.
Je m'appelle Sandrine et j'accompagne ma fille qui est en consultation. Ça permet de répondre aux questions parce qu'on a toujours des incertitudes, on ne sait pas tout sur l'épilepsie. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir une écoute, de savoir ce que l'enfant ressent. Il ne discute pas forcément avec nous comme avec leur médecin ou leur infirmière. Donc c'est complémentaire.
Alors, du coup, comment ça va déjà?
Bien.
T'as eu tous les cadeaux que tu voulais.
Je suis infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. Donc je m'occupe de faire le suivi conjoint avec les médecins, les neurologues, des patients qui ont de l'épilepsie. Donc ça peut aller du petit bébé à l'adolescence, voire même au jeune adulte. Des épilepsies qui sont, on va dire, entre guillemets simples, c'est-à-dire avec un traitement stabilisé qui ne font pas des crises régulières, aux patients qui sont atteints d'une épilepsie très sévère avec plus ou moins polyhandicap.
Donc toi, aucune crise depuis... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ?
Le 8 juin 2023.
Pas de rupture de contact, pas de truc la nuit où tu te dis peut-être je me suis réveillée, j'avais des probatures, je m'étais mordu la langue, j'avais...
Moi je fais beaucoup d'éducation thérapeutique au sein des consultations. En épilepsie, il n'y a pas vraiment de soins à savoir-faire. On travaille beaucoup sur l'autonomisation, le vécu de la maladie et en fait faire un espèce d'équilibre entre ce que l'épilepsie empêche de faire. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes contraintes quand on fait des crises tous les jours que quand on fait une crise exceptionnelle. On n'a pas les mêmes contraintes quand on est un adolescent que quand on est un petit enfant, etc. Donc le but, c'est de connaître sa maladie le mieux possible pour pouvoir vivre le mieux possible avec sa maladie. Puis c'est de l'accompagnement global. Donc parfois, nous, soignants, on aimerait bien qu'ils prennent leur traitement matin et soir, à l'heure qu'il faut, etc., et jamais l'oublier. Mais eux, leur priorité, c'est plutôt de pouvoir organiser un voyage en prenant en compte la maladie. Et c'est notre travail à nous de partir de leurs besoins à eux. Donc on peut partir d'une séance connaître sa maladie, mais finalement se retrouver à parler plutôt de l'avenir avec l'épilepsie. Quoi.
Ok, super.
Et après, on a été voir une conseillère d'orientation.
Très bien.
Et avec mes résultats, elle m'a dit que je pourrais me diriger vers la médecine.
Des fois, je me dis, vu que j'ai pas fait de crise, peut-être que le médicament est inutile. Mais après, je me souviens que j'ai fait des examens qui m'ont dit que j'étais épileptique et donc qu'il fallait pas que j'abandonne le traitement. Je m'appelle Émilie, j'ai 16 ans et ça fait 2 ans ou 1 an et demi que je suis suivie ici. J'ai eu une seule crise. Je m'étais couchée à 2h du matin pour me réveiller à 8h et j'avais pas très bien dormi. Donc au réveil, j'ai fait une crise d'épilepsie. Et étant donné que mes deux frères sont aussi épileptiques, ils m'ont directement diagnostiquée. Depuis, je suis sous traitement et j'ai pas refait d'autres crises, donc je suis assez stable.
Le sommeil, on n'a pas parlé de sommeil. Bon, ça va.
Bah, ça va, je dors bien.
Je dors bien.
Qu'est-ce qui t'apporte ces rendez-vous?
Il m'apporte une sérénité, ils m'ont appris beaucoup de choses. Je pensais avoir des absences, j'en ai pas. J'ai appris ce que c'était, j'ai appris les effets secondaires des médicaments et j'ai un suivi assez complet.
Est-ce que tu fais plus attention à ce qui se passe dans ton corps maintenant qu'avant ou pas forcément?
Quand j'ai une petite fatigue, je prends plus le temps de me reposer. Là où avant je me disais c'est pas grave et je continuais à faire mes activités, maintenant quand je sens une fatigue, j'arrête directement mon activité et je préfère aller me reposer.
Parce que si tu sais que des fois le matin je n'ai pas le temps de le prendre, tu vas me lever à 5h30 pour que je le prenne.
L'autonomisation chez les adolescents, c'est vraiment très très important parce que l'arrivée de la maladie chronique quand on a 15 ans, on commence à avoir des libertés, d'avoir besoin de vivre avec ses copains, avec ses pères en tout cas. Et là, les parents reviennent clairement dans le jeu. Ça coûte cher aux adolescents, donc c'est vrai que moins il y aura d'interactions autour en tout cas de ces problématiques de médicaments, mieux ce sera pour la vie familiale. Donc c'est vrai que plus vite ils sont autonomisés et plus vite j'arrive à les motiver à prendre leur maladie en main, plus vite les conflits autour de ça seront éloignés. On est content si ça marche, quoi.
Reportage de Louise Calédec chez vous à l'hôpital Robert Debré, service neurologie pédiatrique, professeur Stéphane Auvin. On entend à la fois qu'il faut du temps pour ce service qui est d'accompagnement, parce que bien sûr il y a la délivrance des prescriptions, mais finalement, on va dire dans tout le travail, c'est vraiment une partie minime au niveau du temps.
Complètement. Je pense que si on s'arrête à la prescription et à dire il faut prendre ses traitements, on passe complètement à côté de la prise en charge pour un patient avec une épilepsie. Le plus important, bien sûr qu'il faut prendre ses traitements, bien sûr qu'il faut être observant au traitement, d'autant plus qu'aujourd'hui, les traitements qu'on a, c'est plutôt des anticrises, c'est-à-dire qu'on va empêcher le symptôme, mais une fois qu'on arrête le traitement, si la cause de la maladie n'a pas disparu, on continue à avoir les crises. Le plus important, c'est la vie des patients. Ce que je veux dire par là, c'est comment ça, on va pouvoir continuer à aller au collège, au lycée, qu'est-ce qu'on va faire pour être plus ou moins comme les autres en fonction de l'état de la maladie, mais c'est fondamental de ne pas se retrouver complètement différent, et surtout quand c'est inapproprié. Pas jouer aux jeux vidéo, pas aller à la piscine, pas faire de sport, pas voir les autres. Chez les petits, déjà difficile, mais chez un adolescent, c'est inconcevable. Ils grandissent au milieu de leur père, donc ils ont besoin de ces repères-là pour se construire comme futurs adultes.
Surtout, justement, ce moment de l'adolescence, professeur Auvin, c'est quelque chose sur lequel il faut insister pour éviter ce deuxième danger de l'épilepsie, c'est l'isolement.
Clairement. Moi, je pense vraiment que c'est fondamentale. On n'a pas de démonstration scientifique de haut niveau, mais en même temps, est-ce qu'il faut vraiment une démonstration scientifique de haut niveau? Il suffit de regarder les adolescents. Leurs repères changent. C'est plus les parents, les repères, c'est leurs amis. Et ils ont besoin de ce groupe d'amis pour faire leur conduite d'essai. Un jour, ils vont venir, je dis très souvent les choses comme ça pour rigoler, mais ils vont venir avec les cheveux bleus et si tout le monde fait « Ouais !» Tout le monde, ce sera le club des cheveux bleus. Et s'ils font « Oh, bah on le fera plus jamais. » Et c'est comme ça qu'on construit ces repères. Et
si... mais là aussi, c'est un message à adresser aux parents. Laissez-les grandir, laissez-les, même si vous avez peur, apprenez à les laisser aller de leurs propres ailes.
C'est un vrai apprentissage, je pense, en effet. En fait, je pense que l'apprentissage, il doit être adapté à l'expression de la maladie. C'est-à-dire que le danger numéro un, pour moi, c'est l'entrée dans la maladie très souvent, et en particulier quand il y a eu une crise épileptique impressionnante, une convulsion. Il y a eu un sentiment de mort imminente chez les parents. Mmh. Et ça a marqué leur mémoire avec un type de mémoire très particulière qui est la mémoire émotionnelle. On a tous plus ou moins vécu ces épisodes de mémoire émotionnelle. Et quand on se retrouve dans les mêmes circonstances ou quand on pense à ce qui est arrivé, on revit le même degré d'anxiété. Et donc, sans vouloir être mauvais, ces parents, en fait, deviennent très surprotecteurs. Parfois, c'est adapté à la situation médicale, mais en fait, assez souvent, ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, en fait, ces adolescents vont se retrouver avec des restrictions inappropriées, inadaptées, trop fortes, entre guillemets, mais pas du tout par mauvaise volonté. Et si pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils n'ont pas ce groupe de copains pour grandir et faire leur conduite d'essai, quand ils vont essayer de reprendre les rails, ils ont loupé 5 ans d'une génération et ils n'ont pas les codes, en fait. C'est comme nous, quand on parle à nos ados, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'on leur raconte parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on a les codes des groupes d'ados dont on faisait partie.
Alors, on va poursuivre cet échange. On va prendre notamment les auditeurs en ligne, des parents notamment, juste après au Pinard avec ce titre Le Feu dans Priorité Santé sur RFI.
Le feu s'est éteint, il s'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi, et c'est si dommage que l'on soit du soir au matin en constant désaccord. Baby, quand est-ce qu'on se met d'accord? Quand est-ce qu'on se met d'accord? Le feu s'est éteint. S'est endormi peu à peu sans même que l'on voit. Nous étions si beaux dans le même convoi. Et c'est si dommage que l'on soit du soir au matin en constant désaccord. Baby, quand est-ce qu'on se met d'accord? Quand est-ce qu'on se met d'accord? Le feu s'est éteint.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui de l'épilepsie chez les enfants, symptômes, diagnostics, suivi, prise en charge. Toujours avec le professeur Stéphane Auvin, chef du service de neurologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à PHP à Paris. Et on prend tout de suite une première question, on part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan. FM.
Fatou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous appelez au sujet de votre fille, Fatou. Elle a quel âge aujourd'hui s'il vous plaît?
Elle vient d'avoir 14 ans.
Et à quel moment l'épilepsie a-t-elle été diagnostiquée?
Alors elle a fait sa première crise à 5 ans et depuis lors elle est diagnostiquée donc épileptique et elle est sous traitement.
Et ce traitement, est-ce qu'il fonctionne?
Il fonctionne plutôt bien, sauf que, bon, elle peut rester maintenant un an sans crise, on va dire. Mais il y a des moments où au bout d'un an, on se dit qu'on est peut-être en rémission ou bien que c'est contrôlé, elle peut nous faire une grosse crise.
Ça veut dire qu'elle prend des médicaments tous les jours, votre fille, Fatou?
Elle en prend tous les jours, matin et soir.
Et elle va à l'école, elle a des amis?
Elle va à l'école et sa scolarité est normale.
Scolarité.
Elle a des amis, tout se passe bien.
D'accord. Est-ce que la zone, le foyer de l'épilepsie a été identifié?
Oui, on nous a parlé de zone, je pense, frontale, lobe gauche, il me semble.
Vous dites qu'il y a encore des crises convulsives, alors heureusement elles sont rares, mais est-ce que vous avez noté qu'elles interviennent dans des conditions particulières?
Oui, elles arrivent lorsque la petite est très fatiguée et surtout à l'endormissement, jamais en dehors de l'endormissement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est quand elle a une journée très, très agitée et que ça survient. Ou alors, si elle a oublié de prendre ses médicaments, ça arrive quelques rares fois, mais ça arrive quand même.
Vous avez appris à gérer avec les années? Vous savez comment réagir?
Oh oui, c'est toujours assez choquant, mais bon, on sait comment faire. On sait comment faire la poser dans une certaine position et puis quand ça se calme, la ramener à l'hôpital pour des contrôles.
Vous avez dit c'est choquant, ça veut dire qu'à chaque crise, vous ressentez aussi beaucoup de stress?
Énormément de stress. Et elle est difficile à maîtriser parce qu'elle est grande, elle est grande, elle pèse à peu près 70 kilos, donc c'est pas facile à maîtriser.
Par contre, vous dites crise à l'endormissement, ça veut dire qu'au moins elle est dans son lit, elle n'est pas tombée.
Voilà, elle est dans son lit, mais c'est assez inquiétant parce que si tout le monde dort, on peut ne pas entendre. Du coup, elle ne dort pas seule. On est obligé de la faire dormir avec sa sœur qui a le sommeil un peu léger. Et c'est une grosse responsabilité aussi pour sa sœur qui doit, on va dire, surveiller.
Grande sœur ou petite sœur?
Grande sœur.
Grande sœur. Alors, on écoute vos questions, Fatou, au sujet de la santé de votre fille. Je vous en prie.
Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est une épilepsie qui est opérable? Parce que chaque fois qu'on a diminué son traitement, elle a repiqué des crises. Est-ce qu'un jour on va pouvoir réguler cette épilepsie? Et puis sinon, est-ce qu'on peut l'opérer?
Alors vous comprenez bien qu'à distance, aucun médecin peut vous donner un diagnostic, surtout aussi grave qu'une opération ou de la prédiction sur l'avenir de la maladie. Néanmoins, la question qu'on peut poser, c'est quels types d'épilepsies sont opérables?
Alors, c'est ça. Bonjour Fatou, merci pour vos questions. La première chose, c'est, j'ai envie de dire deux choses avant de parler d'opération. Je pense que si vous avez fait plusieurs tentatives de baisse de traitement et qu'à chaque fois les crises sont revenues, malheureusement, mais au moins c'est quelque chose d'important, maintenir le traitement au long cours est quelque chose qui me paraît essentiel. Les neurologues d'adultes, ils ont tendance à faire une tentative d'arrêt plus ou moins. Les neuropédiatres, parfois, ont fait deux. Ça dépend de l'âge des enfants et des adolescents. Mais si vous avez tenté plusieurs fois et qu'elle est stable quand elle prend bien ses traitements, tant qu'on n'est pas allé plus loin, et on va parler d'opération, je pense qu'elle doit garder ses traitements à bonne dose, sans nouvelle tentative d'arrêt. Après, les épilepsies qui sont opérables, la situation, entre guillemets, qui est la plus favorable en termes de succès de la chirurgie, c'est d'avoir réussi à identifier qu'au niveau du cerveau, et souvent grâce à une IRM cérébrale, c'est-à-dire on fait des photos, des images du cerveau, qu'il y ait une anomalie dans la structure. Le plus souvent, les anomalies les plus fréquentes et celles qui sont les plus favorables, entre guillemets, à une guérison chirurgicale, c'est quand il y a une petite zone qui s'est mal fabriquée dans le cerveau, mais quand il y a aussi éventuellement des séquelles, si elles sont localisées à un seul endroit, c'est un élément clé. Et les deux éléments clés qui vont arriver derrière, c'est si cette IRM est anormale, où est-ce qu'elle est située ? Et il faut qu'elle soit située en dehors d'une zone qu'on appelle dans notre jargon de docteur, désolé pour ce mot, éloquente. Ça veut dire qu'elle a une fonction. C'est-à-dire que si un chirurgien opère une zone pour guérir d'une épilepsie et que le patient ne bouge plus, ou le patient ne parle plus, ou le patient n'a plus de mémoire, vous comprenez bien que c'est quelque chose d'inacceptable. Donc les deux choses qui vont conduire à dire un patient est opérable ou non, c'est est-ce que l'IRM est normale ou anormale, même si maintenant on a progressé de temps en temps, avec des examens très perfectionnés, on va sur des IRM normales. Mais surtout, il faut que ce soit en dehors d'une zone éloquente, ça veut dire qu'il faut réussir à bien identifier le point de départ.
Fatou, est-ce que votre fille a déjà passé cet examen, l'IRM ?
Oui, on en a fait plusieurs. Déjà, lors de la première crise et puis lors de son, on va dire, de son suivi, on a fait plusieurs IRM.
Donc vraiment, cette question, on vous invite à la poser directement au neurologue, à l'équipe de neurologues qui suit votre fille depuis des années déjà. Un grand merci pour ce témoignage, en tout cas, Fatou, pour votre appel. Très bonne journée en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est en RDC qu'on retrouve Jacques. Jacques, bonjour.
Bonjour madame.
Alors Jacques, vous résidez à Libengwe et c'est votre fille qui a été diagnostiquée. Quel est son âge s'il vous plaît ?
Oui, elle a 17 ans madame.
Elle a 17 ans. Elle a eu une crise convulsive, c'est ça ?
Oui, des crises convulsives fréquentes.
Est-ce qu'elles sont associées à d'autres symptômes comme de la fièvre ?
Oui, justement, elle fait de la fièvre le plus souvent quand avant de faire la crise convulsive, nous sentons qu'elle souffre un peu de la fièvre.
De la fièvre, ça veut dire est-ce qu'à chaque fois, on lui fait une goutte épaisse pour savoir si elle a le palu ou pas ?
Oui, on lui fait des gouttes épaisses aussi. Oui.
Et en général, il y a un diagnostic de palu ou il n'y a pas de palu ?
Il n'y a pas de palu.
Pas de palu.
Dans une zone tropicale, le palu est toujours frigorial.
Alors, est-ce qu'il y a un spécialiste dans votre région de Libengwe que vous pouvez consulter pour justement qu'il puisse examiner votre fille ?
Et en fait, c'est ça le problème, madame. La zone dans laquelle nous sommes, il n'y a pas un spécialiste dans le domaine. Donc, le plus souvent, elle est consultée par le médecin généraliste.
Par le médecin généraliste. Parce que c'est vrai que Libengwe, je suis allée regarder sur la carte, parce que moi, je ne connaissais pas le nom de cette ville, c'est vraiment à la frontière de la République centrafricaine, du Congo-Brazza et de la RDC. On va dire que c'est vraiment très éloigné d'une grande ville, d'où les difficultés pour se soigner. Aujourd'hui, est-ce que votre fille est encore scolarisée, Jacques ?
Non, elle a arrêté les études dès lors qu'elle avait commencé à développer cette maladie.
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle a dû arrêter d'aller à l'école ?
Oui, madame, vous savez, comme elle étudie à 180 km du foyer, et dès lors qu'elle a commencé à développer cette maladie, nous avons jugé bon de les ramener d'abord à Libengwe pour qu'on puisse d'abord suivre ses soins de santé avant. Si elle reprend sa santé comme ça, elle peut reprendre le chemin de l'école.
Est-ce que vous avez constaté qu'autour d'elle, il y avait du jugement ? Certains la stigmatisaient, la montraient du doigt, la critiquaient par rapport à ses crises convulsives ?
Justement, c'est ça le problème, madame. Quand elle fait des crises dans la salle de classe, et elle commence à baver ses collègues de salle de classe, commence à avoir peur, et on perd, ils pensent que c'est une maladie contagieuse. Donc, toute cette stigmatisation nous a forcé à la retirer un peu de l'école.
Donc, en attendant qu'elle suive un peu les... et là, c'est toujours important de le rappeler. Je me tourne vers le spécialiste, bien évidemment, professeur Auvin, mais ça va mieux en le disant. L'épilepsie n'est absolument pas contagieuse.
L'épilepsie n'est absolument pas contagieuse. C'est vraiment un élément très important et dont il faut se souvenir.
Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont peur d'elle parce qu'ils ont peur des esprits, Jacques ?
Oui, franchement, madame, vous savez, cette maladie dans notre milieu, c'est perçu comme un mauvais sort. Donc, certaines personnes, ses collègues des classes ont peur, tout ça là. Et ça dérange.
Il y a moyen d'aller dans une grande ville pour la faire examiner par un neurologue, par un spécialiste, aller à Kinshasa le cas échéant ?
Oui, justement, la seule voie que nous sommes en train d'évaluer, c'est la fait déplacer Kinshasa pour la faire consulter dans des installations appropriées.
On écoute votre question, Jacques, je vous en prie, allez-y.
Voilà, madame, je voulais savoir, quelle est la cause vraiment de cette maladie ? Est-ce qu'il y a vraiment une pathologie ou encore des microbes qui occasionnent cette crise-là. Et surtout à l'âge de 17 ans, l'enfant qui a grandi jusqu'à l'âge de 17 ans-là. Et c'est vraiment... Il y a une pause qu'on doit éviter dans les jours à venir.
Donc il y a deux points dans votre question. Question très importante, qu'est-ce qui provoque l'épilepsie, hein, l'origine de la maladie? Et une autre question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui peuvent provoquer les crises d'épilepsie? C'est une autre chose. Je me tourne vers vous, professeur Auvin.
On va commencer, bonjour monsieur, on va commencer par le qu'est-ce qui peut provoquer les crises chez votre fille. En pratique, dans les épilepsies, une des grandes caractéristiques, c'est qu'on ne sait pas ce qui va provoquer les crises. Mais il y a des facteurs favorisants, et je prends souvent comme image, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais pour que le vase déborde, il faut que le vase soit plein. Et en fait, cette image, je m'en sers en disant, avoir une épilepsie, en fait, on a une grande sensibilité aux crises. Et s'il y a parfois des petites gouttes d'eau qui peuvent faire déborder le vase, la fatigue, c'est un facteur favorisant. La mauvaise prise des traitements est un facteur favorisant. La fièvre, chez certains patients, un tiers des enfants, en cours d'un épisode de fièvre, c'est au moment où ils vont se mettre à faire la crise plutôt qu'un autre. De temps en temps, d'autres facteurs comme l'anxiété ou le stress. Mais c'est vrai qu'on mesure moins ces facteurs-là sur le plan scientifique, donc on est toujours un peu moins à l'aise. Mais la famille et les patients rapportent clairement le stress comme cette goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Un autre élément important, parce que Jacques disait on a bien écarté la question de la contagion, mais c'est vrai que quand on se fait critiquer parce qu'on fait une crise d'épilepsie, ce serait bien d'avoir des éléments d'explication. Écoute, moi j'ai de l'épilepsie, je vais parler avec des mots très simples, parce que l'électricité de mon cerveau est complètement excitée. J'ai un court-circuit qui s'est passé dans mon cerveau et qui me rend comme ça. Est-ce que ce serait une explication?
C'est une très bonne explication. En fait, il y a comme un phénomène, nous on prend souvent l'image de l'orage, en fait tout va bien. Le ciel est bleu et d'un seul coup, il va y avoir des nuages, il va y avoir un orage et puis un quart d'heure après, avec le vent, tout sera redevenu comme avant. C'est un peu l'image de l'épilepsie, il y a un excès d'électricité et majoritairement, les patients sont tout normaux en fait. Juste, il y a ce temps très particulier de l'orage qui fait que les symptômes sont présents.
Mais c'est vrai que quand on n'a pas fait d'études de médecine, c'est pas évident de comprendre qu'on a de l'électricité dans le cerveau.
Non. Ouais. C'est pas du tout évident, mais c'est vrai que toutes les informations qui s'échangent dans notre cerveau, c'est des espèces de mini-courants électriques, c'est pas vraiment complètement de l'électricité. Et si un chirurgien opère un patient, quand il met le doigt dans le cerveau, il prend pas un court jus de façon évidente. Mais malgré tout, c'est des petites impulsions qui font que nos informations s'échangent dans les différentes parties de notre cerveau.
Voilà pour ces explications. Un grand merci à vous, Jacques, pour votre appel. Beaucoup de courage. Dernière auditrice du Gabon Libreville, c'est Ingrid. Ingrid, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Ingrid, vous avez 40 ans, mais l'épilepsie, chez vous, ça remonte à loin. Elle est apparue à quel âge chez vous, cette maladie?
Alors, c'est la première fois que j'ai fait une crise d'épilepsie, j'avais 11 ans.
Vous aviez 11 ans, et encore aujourd'hui, est-ce que vous avez des crises convulsives?
Oui.
À quelle
fréquence? Je peux en avoir une fois toutes les deux semaines.
Ah oui, c'est fréquent quand même. Est-ce que vous avez repéré des signes avant-coureurs ou des conditions générales quand ces crises surviennent?
Alors, j'ai remarqué à l'époque, lorsque j'étais plus jeune, que je pouvais faire des crises très rarement, une fois tous les deux mois ou bien rarement. Mais j'ai remarqué avec le temps que l'augmentation des écrans, l'Internet, même l'écran avec lequel on travaille toute la journée, toute cette multiplication d'écrans, le téléphone et autres ont fait que je suis très sensible. J'ai remarqué que c'est un élément déclencheur, c'est que dès que j'ai les yeux beaucoup sur les écrans, ça va se déclencher.
Alors vous dites crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire convulsion ou ça veut dire, on va dire, arrêt de l'attention et carrément absence?
Alors je vais vous faire rire, moi mes crises d'épilepsie sont durant la nuit, pendant que je dors. Donc je pourrais même pas vous dire, c'est uniquement... c'est quand je dors, donc c'est-à-dire que je peux être en sommeil et puis la crise épileptique va se déclencher.
Excusez-moi de vous interrompre. Vous le savez comment? Parce que vous avez fait un électroencéphalogramme pendant la nuit ou quelqu'un vous a observé et a vu que vous changiez d'attitude? Comment vous le savez que c'est pendant la nuit?
Alors, c'est quand je dors et que je me réveille par terre, si vous préférez.
Ah, d'accord.
Avec des sensibilités, des blessures. Souvent, on croyait même que j'étais une femme battue. Parce que j'avais des blessures sur le corps, rien qu'avec le fait des convulsions, je peux tomber dans la nuit. Et je me réveille dans les vapes, toute groggy, pendant à peu près une journée.
Pour bien comprendre, ça survient pendant la nuit, la crise arrive, elle ne vous réveille pas. En fait, vous êtes dans un demi-sommeil et après, c'est les résultats de la crise que vous voyez a posteriori, c'est ça?
Exactement, exactement.
Mais ça doit être effrayant, du coup, vous n'avez pas des insomnies, parce que imaginez que ça peut survenir en pleine nuit, ça doit être quelque chose de super angoissant, non?
C'est pour ça que je suis venue pour l'émission pour l'épilepsie dans l'enfance, parce que je voulais juste expliquer que moi, durant toute mon enfance, j'ai eu peur. Peur de dormir à côté des amis, peur de boire trop d'alcool, peur de tout.
Je vous pose une question, Ingrid, parce que vous dites « j'ai peur », vous nous racontez des choses qui sont un petit peu inquiétantes, mais heureusement, on vous entend. Vous avez quand même du rire dans la voix. Ce rire, c'est une protection ou c'est parce que vous allez plutôt bien et que vous vivez très bien avec cette maladie?
Non, c'est plutôt une protection.
D'accord, je comprends, je comprends. Et vous avez, j'imagine, des questions à poser à ce sujet.
Oui, je voulais savoir, mon épilepsie étant assez particulière, c'est-à-dire dans le sommeil, elle est partielle. Je me réveille donc après la crise d'épilepsie. Donc, il y a des fois ma fille peut me voir, ou j'ai une crise d'épilepsie, je tombe, ça de me voir. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de stabiliser la fréquence, en fait.
Est-ce que vous êtes suivie régulièrement par un neurologue, Ingrid?
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été à l'école.
Ouais.
Donc, j'ai eu un check-up, j'avais 15 ans. J'ai eu encore un autre, je crois, durant mes études supérieures. J'ai toujours été suivie. Donc,
et vous prenez des médicaments tous les jours?
C'est ça. Quand j'ai eu 30 ans, au départ, je prenais du Tegretol quotidiennement. Après, quand j'ai eu 30 ans, le médecin m'a proposé du Lamictal. Du Lamictal. Il m'a proposé de passer au Lamictal. Mais je remarque que ce n'est pas quelque chose qui m'a stabilisé, pas du tout.
Est-ce que c'était parce que vous aviez un projet d'enfant qu'on vous a changé de médicament?
C'est exactement ça.
Et aujourd'hui, vous avez encore un projet d'enfant ou pas?
J'aurais voulu, mais j'ai toujours peur.
Vous avez peur. Mais est-ce que ça veut dire que si vous renonciez, vous pourriez envisager de reprendre l'autre médicament?
Le Tegretol, oui, pourquoi pas. Oui, d'autant plus que je crois qu'il sera peut-être plus régulier, parce qu'ici au Gabon, on a des problèmes de quotas.
D'accord.
Donc, je peux arriver, prendre le Lamictal et on me dira que ce n'est pas le bon dosage. Donc, je suis obligée de prendre 8 comprimés.
Professeur
au lieu de 2.
Auvin, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de cette question essentielle de l'épilepsie pédiatrique, mais après, les petits-enfants deviennent des jeunes filles, des femmes et des mamans, et qu'il faut tenir compte aussi de ce traitement par rapport au projet de vie.
Je pense qu'il faut en tenir compte dès la pédiatrie, c'est vraiment essentiel. Après, juste pour répondre à Ingrid, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut être certain des doses de médicaments. Prendre un médicament, c'est une chose, mais parfois la dose doit être adaptée. Donc, il y a peut-être que votre lamotrigine vous correspond, en dehors des problèmes de rupture de stock, mais peut-être qu'il faut peut-être mettre une dose plus importante. Après, en fonction de votre projet de vie, en effet, projet de grossesse ou pas, éventuellement revenir à une molécule qui marchait mieux avant. Juste pour revenir par rapport au projet de vie, je pense que c'est important parce que quand on prescrit un traitement à une jeune fille qui a 12 ou 13 ans, si elle va très bien sous traitement et qu'elle a une forme d'épilepsie où on n'envisage pas d'arrêter le traitement, il faut tout de suite choisir une molécule qui va être appropriée parce qu'à 16, 17, 18, 20 ou 25 ans, on n'a pas forcément envie de prendre le risque de refaire une crise, pas tellement que la crise est dangereuse ou inquiétante sur le plan de la santé. Beaucoup de patients avec épilepsie continuent à faire des crises. Mais c'est à quel point, quand on a été stable très longtemps, ça va changer la trajectoire de vie. Donc, le message, c'est vraiment anticiper dès l'adolescence et même dès la préadolescence le choix des molécules en fonction des projets de vie. Chez les jeunes femmes, bien entendu, mais chez les jeunes hommes aussi, d'ailleurs.
Mais il faut le dire aussi parce que certains médicaments peuvent être extrêmement dangereux pour le bébé à naître.
On connaît les médicaments. Alors, ils ne changent pas tellement, un petit peu parfois, mais peu de choses sur la vie relationnelle des personnes, la libido ou la sexualité ou la fertilité. Parfois un petit peu, mais relativement peu. Par contre, l'impact est majeur sur l'enfant qui est exposé in utero, c'est-à-dire pendant qu'il est dans le ventre de la maman, où il y a en effet des impacts majeurs et il y a des molécules qu'on connaît, qui sont vraiment en alerte rouge.
On peut
pour
citer le nom d'un médicament.
On peut citer particulier le Valproate.
La Dépakine, la marque. Voilà, qu'il y a eu un scandale sanitaire en France sur cette question-là. Merci beaucoup, Ingrid, pour votre appel. On va maintenant avoir le regard d'un de vos confrères. On part au Togo.
RFI à Lomé.
Avec nous, professeur Mofou Bello, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neurologue à Lomé, chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Est-ce que vous avez des estimations, professeur Bello, sur la fréquence, l'incidence de l'épilepsie chez les enfants au Togo?
Bien, merci. Je pense que il serait très difficile de donner une prévalence exacte. Je vais me baser sur ce que l'OMS dit, que 8 pour 1000 de la population est estimée avoir une épilepsie au Togo. Alors, les statistiques sanitaires du ministère de la Santé ont relevé en 2024 que 2785 personnes avaient consulté dans des structures pour épilepsie et parmi ces personnes, nous avions noté 1157 enfants. Mais disons que c'est la partie visible de l'iceberg.
Professeur, c'est quoi, d'après vous, les explications pour cette sous-estimation des cas d'épilepsie pédiatrique dans votre pays, le Togo ?
Dans la plupart des cas, les gens ne vont pas à l'hôpital.
Oui.
Ils vont dans les structures, je vais dire, paramédicales, chez les tradithérapeutes et donc dans des structures non conventionnelles.
Est-ce que du fait des tradis, il peut y avoir des pratiques ou des comportements qui peuvent être préjudiciables ? Bien évidemment, c'est pas du tout une façon de critiquer généralement ces pratiques, mais c'est bien de dire qu'il y a certaines choses qui peuvent faire, notamment pour entraver le mouvement des patients, tout ça. Est-ce que ça peut être dangereux justement pour les patients pris en charge pour épilepsie ?
Oui, bien sûr. La pratique, c'est le fascisme. Ces patients sont pris pour des possédés par le diable, donc n'osent pas sortir, donc ils sont cachés par la famille, l'entourage. Et donc c'est un fléau sur lequel nous devons travailler, sensibiliser la population pour les sortir de l'ombre, comme l'OMS le dit.
Ça veut dire, bien sûr, professeur Mofubello, moi je vais aller droit au but, il ne faut pas enchaîner ces patients, il ne faut pas les ligoter, il ne faut absolument rien faire pour bloquer leur mouvement. Tout ça, ça va leur faire du mal, non seulement dans le corps, mais aussi du côté de la santé mentale, du psychisme et du ressenti.
Oui, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique, c'est pas une maladie démoniaque. Et donc, en cas de crise, il ne faut pas les enchaîner, il ne faut pas les abreuver d'huile rouge, leur donner, mettre la pierre dans la bouche. C'est très dangereux pour les patients. Donc, c'est une maladie chronique comme les autres qui se traite à l'hôpital.
Maladie qui peut être spectaculaire, mais comme les autres professeurs. Stéphane Auvin, vous souhaitiez intervenir.
Juste pour dire que chez nous aussi, il y a de la stigmatisation qui n'est pas tout à fait du même genre, mais il y en a aussi. Le Bureau international contre l'épilepsie, qui est le regroupement des associations de familles, a fait un certain nombre de kits de communication, et en particulier dirigés par rapport à la stigmatisation qu'on voit souvent en Afrique, enfin, en tout cas dédiés dans ce cas-là particulier. Et sur Internet, on peut trouver tous ces kits de communication sur le Bureau international contre l'épilepsie. C'est vraiment des éléments qui peuvent servir, je pense. De toute façon, on est tous à devoir se bagarrer contre ces stigmatisations.
Alors, pour revenir justement au diagnostic, examen clinique essentiel, j'imagine, professeur Mofubello, dans votre contexte, malgré tout, tout ça peut être aussi confirmé par des examens. Passer un électroencéphalogramme en dehors de l'OMÉ, est-ce que c'est possible ?
C'est très difficile. Je pense que nous formons nos apprenants par rapport à ce qu'on appelle evidence-based medicine. Les symptômes sont le plus souvent stéréotypés, durent peu longtemps, et à partir de ce moment-là, on peut poser le diagnostic. C'est vrai que la plupart du temps, le diagnostic se fait par électroencéphalographie et c'est concentré dans les capitales. Donc, du coup, ça se fait exclusivement à l'OMÉ.
Donc, quand on parle de l'accès aux soins, il y a bien sûr aussi la question cruciale de l'accès aux médicaments. Les traitements, c'est abordable d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Autrement dit, est-ce qu'il y en a dans les pharmacies ?
C'est difficile. À base communautaire, nous utilisons toujours les anciennes molécules comme le phénobarbital qui coûte moins d'un euro par mois. Mais il arrive que ces médicaments ne soient pas disponibles dans les pharmacies. Mais disons que l'autre des pharmaciens fait un effort très important et on peut trouver d'autres molécules comme la lamotrigine, le levetiracétam maintenant au Togo.
Ça veut dire qu'il faut améliorer le diagnostic, il faut améliorer l'accès aux médicaments, il faut améliorer la perception des patients et de la maladie. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de travail à faire sur cette maladie neurologique, hein, professeur Mofubello, chez vous comme partout dans le monde d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Donc notre travail est de sensibiliser la population pour que ces enfants-là soient amenés dès l'instant où il y a la moindre convulsion à l'hôpital, vers les pédiatres, les médecins généralistes et pourquoi pas vers les neurologues pour que le diagnostic soit posé pour leur prise en charge.
Un grand merci à vous, professeur Mofubello. Très bonne journée à Lomé. Professeur Stéphane Auvin, on arrive à la conclusion de notre échange. Déconstruire donc toute cette stigmatisation, lutter contre, et déconstruire aussi, on va un petit peu terminer par le début, les fausses idées qui concernent les bons réflexes, les comportements adaptés face à une personne qui fait une crise convulsive. Vous, si vous aviez quelques conseils à donner essentiels, ce serait quoi? Un petit peu comme quand on fait des conseils au premier secours.
C'est exactement du premier secours. Peut-être que c'est un premier secours qui est d'ailleurs mal enseigné. La première chose, c'est éviter que le patient qu'il y ait un suraccident, qu'il se blesse, c'est un principe de base du secourisme. Déplacer les objets dangereux qui sont autour du patient. Parfois, avec le stress, l'adrénaline, on pense qu'on va pouvoir déplacer le patient, mais si on se blesse soi-même, on ne pourra plus l'aider. Empêcher donc qu'il se blesse. Quand il y a les mouvements, ne pas restreindre les mouvements, parce qu'ensuite, après, le patient peut avoir des douleurs articulaires. Et puis, un des éléments clés, c'est même s'il y a beaucoup de bruit de gorge pendant la crise, pas de doigts, pas d'objets dans la bouche, on ne peut pas avaler sa langue. Le pire, c'est qu'on risque de se faire mordre les doigts. On n'utilise rien de tout ça. Et quand la crise est finie, mettre en position latérale de sécurité, c'est-à-dire coucher sur le côté pour favoriser la respiration. Et de temps en temps, il peut y avoir un vomissement en fin de crise. Ça évite que le patient, justement, ait un risque d'inhalation dans ce cas-là.
On vous remercie. Hein. On a bien compris tout ce volet, lutte contre les fausses croyances, ça reste absolument essentiel dans cette prise en charge. Merci pour toutes ces explications à vous, professeur Stéphane Auvin. On va se quitter avec ce titre de Hammer Boy dans Priorité Santé, Love Letter. Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pou, Victor Hull et Thierry Le Saint à la réalisation. Priorité Santé, on vous retrouve à 9h10 temps universel demain. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Bank pour votre compte.